dans la mesure surtout il a été assez peu défriché dans la tradition depuis plusieurs décennies. Et il y avait le choix de faire une étude très théologique, très spéculative, une étude plus historique. J'ai préféré l'étude plus historique dans la mesure où elle donnera des bases à la réflexion intérieure, au lectorat, notamment des actes. Donc je parcourrai les étapes à travers des textes officiels, très peu nombreux, les étapes du dialogue judéo-chrétien. Ce dialogue judéo-chrétien, à la différence de l'esprit du Concile, est datable historiquement. Zelisberg, 1947, est une réunion d'intellectuels chrétiens de différents horizons et juifs qui vraiment lance formellement les revendications d'une plateforme, disons, de dialogue entre juifs et chrétiens en 10 points, qu'on appellera les 10 points de Zelisberg. Il est rare qu'un mouvement puisse être daté, j'insiste sur ce point, et évidemment la cause prochaine de cette datation, c'est la guerre, c'est ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler la Shoah, qui a en quelque sorte obligé les intellectuels à participer à cette manifestation. La cheville ouvrière du dialogue judéo-chrétien de Zelisberg est l'historien français Jules Isaac, très célèbre auteur de manuels scolaires, mais aussi de livres particulièrement remarqué sur Jésus et Israël, mais aussi on a la présence de l'abbé Journet, encore abbé à cette époque-là, on a la présence épistolaire de Maritain, et l'on verra ensuite un certain nombre d'universitaires comme Henri-Irénée Maroux. La France joue un rôle très important dans ce dialogue, manifester leur soutien actif à cette nouvelle théologie. Donc, le document qui est issu de la réunion du 30 juillet 47 à Zelisberg produit 10 thèmes qui devraient être, à partir de maintenant, pour que ne se reproduisent plus les persécutions antisémites, la règle d'or d'un authentique dialogue judéo-chrétien. Ces 10 points, je vous les lis, je n'insiste pas, j'abrège le document écrit qui vous a été remis, je n'insiste pas sur la motivation initiale, plus jamais ça. Et à partir de là, on construit une théologie. Là encore un point très intéressant, l'histoire construit la théologie. Ce qui n'est pas le cas dans le dialogue avec les protestants ni avec l'islam. Premier point, rappelez que c'est le même Dieu qui nous parle à tous, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Je les lis, ils sont un petit peu longs, mais vous les aurez en tête pour la suite de tout l'exposé. Deuxième point, rappelez que Jésus est né d'une mère juive, de la race de David et du peuple d'Israël, et que son amour éternel et son pardon embrassent son propre peuple et le monde entier. 3. Rappelez que les premiers disciples, les apôtres et les martyrs étaient juifs. 4. Rappelez que le précepte fondamental du christianisme, celui de l'amour de Dieu et du prochain, promulgué déjà dans l'Ancien Testament et confirmé par Jésus, oblige chrétiens et juifs dans toutes les relations humaines sans aucune exception. 5. Évitez de rabaisser le judaïsme biblique ou post-biblique dans le but d'exalter le christianisme. 6. Évitez d'user du mot juif au sens exclusif d'ennemi de Jésus ou de l'allocution ennemi de Jésus pour désigner le peuple juif tout entier. 7. Je l'abrège, évitez de présenter la passion du Christ d'une manière qui ferait peser une sorte de malédiction sur les Juifs. 8. Évitez de rapporter ces mêmes malédictions des Saintes Écritures. 9. Évitez, j'insiste sur le 9, évitez d'accréditer l'opinion impie que le peuple juif est réprouvé, maudit, réservé pour une destinée de souffrance. 10. Évitez de parler des Juifs comme s'ils n'avaient pas été les premiers à être de l'Église. Et ensuite viennent des souhaits pratiques, n'est-ce pas, qui sont réforme des manuels de catéchèse, réforme des expressions journalistiques, scolaires, puis théologiques, de tout ce qui concerne les Juifs dans l'enseignement chrétien. Alors, ce qui est frappant dans ces 10 points, c'est qu'on y trouve tout, et le contraire de tout, et à commencer par des points qui ne font aucune difficulté dans la conscience intellectuelle catholique éclairée. Il est bien évident que les points 1, 2, 3 et 10 ne sont pas contestés, ni contestables. Les racines juives de l'Église sont une nécessité dans le mystère du salut, puisque le peuple élu avait pour vocation d'amener l'Église. Un autre point, par contre, à l'extrême opposé, non seulement fait problème, mais ne sera même pas argumenté, ne sera même pas sous-tendu par une spéculation, c'est le point qui concerne le 9, n'est-ce pas ? Éviter d'accréditer l'opinion impie que le peuple juif est réprouvé, maudit, réservé pour une destinée de souffrance. Donc, si vous voulez, entre l'évidence des racines de l'Église et l'incantation, c'est une incantation, il n'y a pas de malédiction juive. Il y a tous les autres points qui, à des degrés divers, relèvent soit de la théologie stricte, soit de la pédagogie, n'est-ce pas, de la délicatesse, de la courtoisie, etc. Donc, je n'ai pas le temps de développer le détail de ces points, mais globalement, ce qui est frappant, c'est qu'ils sont extrêmement modérés. Cette stratégie de reconquête, de conquête de l'Église par un certain judaïsme, dans ces 10 points de Zelisberg, finalement, est presque, j'allais dire, injurieux pour les Juifs. Il est dit qu'il faut être charitable envers eux, que la charité s'étend à tout homme, que Dieu pardonne à tous les hommes, même aux Juifs, pensez donc. Il est dit qu'il faut éviter de faire retomber sur tous les Juifs les récits de la Passion. Mais les récits de la Passion sont racontés, ils ne sont pas niés, alors qu'un Jules Isaac, dans son ouvrage Jésus Israël, viendra à les nier. C'est une première étape, c'est un premier maillon, ce n'est rien d'autre, et je suppose que dans l'esprit de ceux qui ont fait cette première réunion, le dessein ultime était d'obtenir beaucoup plus. Mais on ne pouvait pas obtenir plus dans l'Église de Pie XII. Ceci ressortit à l'histoire, donc je ne peux pas en faire l'exégèse, mais je suppose qu'en réalité, c'est cela qui était en jeu, n'est-ce pas ? Un point de départ. La preuve que ce n'est qu'un point de départ, c'est que, immédiatement après, en 1948, sont fondées l'amitié judéo-chrétienne, ou les amitiés judéo-chrétiennes. J'ai cité tout à l'heure un homme comme Marou, des hommes comme Maritain, etc., pour la France, ou le cardinal Daniel, le futur cardinal Danielou. Bon, mais le schéma se reproduit, bien sûr, sous d'autres noms et d'autres formes dans le monde entier. Et ceci est absolument essentiel. Ce qui caractérise le dialogue judéo-chrétien, c'est que c'est avant tout, et je le redirai plusieurs fois, une praxis. La doxa, la doctrine, est difficile à articuler au départ. Il faut donc que l'amitié, le dialogue confraternel prime la réflexion. 47, Zelisberg, 48, amitié. Et comme on a dit amitié, on a tout dit. Viennent ensuite des éléments dans cet historique qui sont très ponctuels, très factuels, mais qui ne sont pas sans importance. La réforme de la liturgie du Vendredi Saint. La réforme de la liturgie du Vendredi Saint va porter sur la prière, la célèbre prière, n'est-ce pas, Oremus et pro perfilis Iudeis, et elle va avoir lieu en de nombreuses étapes. Première étape, la congrégation des rites, sous Pie XII même, n'interdira pas la traduction en vernaculaire de perfidia, hein, au sens de qui ne reçoit pas la foi, qui va contre la foi, qui a refusé la foi. Le sens vernaculaire de perfidie, au moins en langue française, je suppose que c'est l'équivalent dans les langues romaines, dans les langues romanes, pardonnez-moi, est, j'allais dire, évacué. Je concéderais presque que c'est une revendication acceptable dans la mesure où l'évolution du langage peut très bien amener à une réception du texte liturgique lui-même qui va au-delà de ce qu'ont voulu ces scripteurs il y a 1000 ans. Là, il y a un problème de pure sémantique qu'il faudrait voir dans des dictionnaires latins du 8e siècle, 9e siècle. Bien. Deuxième point, la semaine sainte va voir, la réforme de la semaine sainte de 55 va voir rétabli la génuflexion et le silence dans la prière pour les juifs. Pie XII le concédera. Puis le pape Jean XXIII va carrément supprimer les termes perfidis et perfidiam par un décret du 5 juillet 59. Voyez-vous, c'est la technique du grignotage qui est classique. Mais on reste encore dans une certaine, j'allais dire, orthodoxie. La suppression ne change pas la doctrine d'une manière positive. La doctrine va être changée positivement par Paul VI. Lorsque le texte, d'un seul coup, et on repense à ce qui a été dit ce matin sur la plénitude de la communion, le père Pierre-Marie en parlait longuement, le texte qui disait « Dieu qui n'exclut même pas les Juifs de ta miséricorde » va devenir « Que le peuple racheté en premier puisse parvenir à la plénitude de la rédemption » sous Paul VI en 66, et dans le nouveau missel romain, donc que les Juifs, à qui Dieu a parlé en premier, progressent dans l'amour de son nom et la fidélité de son alliance, Dieu éternel, etc., conduit-les à la plénitude de la rédemption. Bon. À ce moment-là, une étape est franchie vraiment avec le missel de Paul VI, c'est-à-dire qu'on considère implicitement, maintenant, en priant pour les Juifs, qu'ils sont dans la voie du salut, et que ce n'est plus en raison de leur perfidité que l'on prie, mais pour qu'il y ait un accomplissement plus parfait de l'amour divin qu'ils connaissent déjà. Nostra aetate, est évidemment, dans la mémoire de tous les théoriciens de la rencontre judéo-chrétienne, l'élément le plus important. Il y a une théologie qui s'amorce maintenant, et non plus simplement une modification de la lex orandi, ou bien une action concrète. Il y a une théologie qui s'amorce à propos des Juifs, dans le fameux paragraphe 4 du décret Nostra Aetate sur les religions non chrétiennes. Je passe rapidement sur ce qui est dit par le début du décret, n'est-ce pas, qui rappelle que l'Église du Christ reconnaît l'origine de sa foi et son élection chez les Juifs, qui ajoute que, assurément, les Juifs n'ont pas reconnu le temps où ils ont été visités, qui rappelle que les dons de Dieu sont sans repentance. On reviendra sur ce point très délicat. À mon avis, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la conclusion de cette partie, n'est-ce pas, du fait d'un si grand patrimoine spirituel commun aux chrétiens et aux juifs, le Concile veut encourager et recommander entre eux la connaissance et l'estime mutuelle qui naîtront surtout d'études bibliques et théologiques ainsi que de dialogues fraternels. Quitte à me répéter, et je le ferai encore plusieurs fois, systématiquement revient dans le dialogue judéo-chrétien l'idée que c'est d'abord en dialoguant que l'on trouvera le terrain théologique sur lequel il faut débattre. Et les autres points sont trop abscons, sont trop pointus pour être pour l'instant l'objet d'une solution. Évidemment, on pourrait discuter sur la lettre du décret conciliaire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un patrimoine commun si l'on ne sait pas déjà quel est le réel héritier? En quoi une connaissance, c'est un point qui me frappe toujours dans les rencontres avec les autres religions, en quoi une meilleure connaissance engendrerait-elle de soi une estime, hein? Après tout, nous sommes bien connus de nos autorités, la tradition, ils la connaissent, ils l'ont pratiquée, et Dieu sait s'ils nous méprisent. Le point qui a le plus marqué l'opinion publique, bien sûr, c'est la question du déicide. Globalement, le décret Nostra Aetate, dans son paragraphe 4, rejette l'accusation traditionnelle de déicide. Dans des termes que je ne relis pas, mais qui vont beaucoup décevoir, finalement, l'aile la plus progressiste. Le décret a été discuté très longuement, il y a eu 3 versions, et le rejet de l'antisémitisme a été inscrit dans le rejet général de toutes les persécutions contre les hommes, n'est-ce pas? Il est rappelé que l'Église, malgré tout, est l'Église du Christ, le nouvel Israël, qu'elle doit annoncer le Christ, etc. Globalement, les Juifs ne peuvent pas se permettre de faire la fine bouche. Ils applaudissent au décret, mais c'est après coup, c'est 30 ans après qu'on se rend compte, si j'ose dire, de son caractère éminemment timide, presque réactionnaire. L'essentiel était de lancer la machine. En 1974, orientations et suggestions pour l'application de la déclaration conciliaire Nostra Aetate numéro 4. Voilà vraiment. Et paradoxalement, ce sont les documents qui ne sont pas connus du grand public. Voilà vraiment les documents romains de la nouvelle théologie judéo-chrétienne. Le décret Nostra Aetate peut être presque ressenti comme une sorte d'acte de charité envers les Juifs qui ont souffert. Par contre, 10 ans après, il ne peut plus s'agir de cela. Il s'agit vraiment d'une nouvelle façon d'envisager le rapport avec les Juifs. Le cardinal Wilbrandt, donc, est président de la commission pour la relation religieuse de l'Église catholique avec le judaïsme. Commission, tenez-vous bien, qui vient d'être rattachée en octobre 1974 au secrétariat pour l'unité des chrétiens, ce qui est un geste d'une portée hallucinante, propose donc ce texte orientations et suggestions, propose, je me répète encore, de tirer les conclusions de 10 ans d'activité judéo-chrétienne. Citant je ne cite pas le document, les expériences de nombreuses initiatives, n'est-ce pas, en 9 ans, de nombreuses intentions ont montré ce que l'on pouvait faire. Alors on en prend son parti et on instaure une nouvelle théologie. Quels nouveaux points par rapport aux 10 points de Zillisberg apparaissent? Nouveaux, j'ai sélectionné uniquement les nouveaux points. Premier point, il s'agit de connaître maintenant les Juifs et de savoir par quels traits essentiels les Juifs se définissent eux-mêmes. Premier point, comment ils se définissent eux-mêmes. Deuxième point, comprendre les difficultés que l'âme juive, justement imprégnée d'une très haute et très pure notion de la transcendance divine, éprouve devant le mystère du Verbe incarné. Donc on passe à un point de vue juif, on rentre dans la conscience juive. Troisième point, qui n'était pas du tout affirmé ni au Concile ni à Zillisberg, montrer que l'histoire du judaïsme s'est poursuivie et est riche de valeurs religieuses. Voyez-vous, l'application du décret est en fait très très loin du décret. Le décret disait simplement, si j'ose dire, ils ne sont pas déicides, il faut être gentil avec eux. Les orientations disent, il faut comprendre ce que c'est qu'un juif, vu d'un point de vue juif, pour être un bon chrétien. Et tout le texte ne parle que de cela. Jusqu'au blasphème compris, il est évident que oser dire dans un texte romain que les juifs, parce qu'ils se font une conception très haute de la transcendance, ont du mal à accepter le Verbe incarné, revient à dire que nous avons une conception faible ou sans exigence de la transcendance. C'est un blasphème en bonne et due forme. Encore une fois, le document se termine dans plusieurs paragraphes sur l'incitation à œuvrer ensemble, œuvrer dans la connaissance de la liturgie juive, des fêtes juives, des rites juifs, et œuvrer, je cite, de ci, de là, n'est-ce pas, dans la poursuite de la justice sociale, de la paix, dans les moyens de communication sociale, la presse, la radio, le cinéma, la télévision, la collaboration avec les savants juifs, la création de toute forme de groupes de recherche, d'exégèse en collaboration avec les juifs. Encore une fois, c'est là le plus important. Je crois pour les personnes de ma génération qui, à 18 ou 20 ans, cherchaient à faire de l'hébreu, cherchaient quel cursus menait à des études sémitiques ou autres, tout est verrouillé, il n'y a pas d'autre terme, par les amitiés judéo-chrétiennes, leurs organes et les cercles concentriques, n'est-ce pas, qui tournent autour d'eux. En réalité, la praxis l'emporte très largement sur la doctrine. Les notes pour une correcte présentation des juifs et du judaïsme dans la prédication et la catéchèse de l'Église catholique viennent en 85. C'est le troisième document romain officiel, hein, Nostra Aetate, orientation et notes. Il y en a très peu, mais tous les 10 ans. Pourquoi tous les 10 ans? Parce que les 10 années qui précèdent à chaque fois sont un laboratoire, je crois qu'il faut le prendre comme ceci, on démontre le mouvement en marchant. Et 98, la Shoah, ça fait 13 ans, mais il était déjà en gestation depuis de nombreuses années. On va beaucoup plus loin avec les notes pour une correcte présentation des juifs et du judaïsme. C'est toujours le cardinal Wilbrands qui signe le document, et je lis la phrase suivante, qui ne se trouvait pas dans les documents précédents, et qui maintenant s'y trouve. Lorsqu'il considère l'avenir, le peuple de l'ancienne et de la nouvelle alliance tend vers des buts analogues, la venue ou le retour du Messie, même si c'est à partir de deux points de vue différents. Et on se rendra compte plus clairement que la personne du Messie à propos de la... Pardonnez-moi. Et on se rendra compte plus clairement que la personne du Messie à propos de laquelle le peuple de Dieu est divisé est aussi un point de convergence pour lui. Bon. Ça n'a l'air de rien. C'est un paragraphe de 4 lignes dans un document d'une 15aine de pages. Mais il est dit explicitement cette fois-ci que juifs et chrétiens sont le peuple de l'Alliance. Bien sûr, il y a un flou artistique concernant le Messie, mais il est confirmé doctrinalement en 85 que le rattachement au secrétariat pour l'unité des chrétiens était une nécessité. Il est ajouté, dans un paragraphe que j'ai sélectionné aussi, que la pomme de discorde sont les évangiles. Antérieurement, vous vous souvenez, à Zélisberg, on dit ne pas présenter les évangiles d'une manière déplaisante pour les juifs. Maintenant, le document de 85 dit, franchement, il n'est pas exclu que certaines références hostiles ou peu favorables aux juifs aient comme contexte historique les conflits entre l'Église naissante et la communauté juive. Certaines polémiques reflètent des conditions de rapport entre juifs et chrétiens bien postérieures à Jésus. Bien postérieures à Jésus. Le document de 85 tient maintenant et enseigne que, parce qu'il y a un pouvoir d'extension, tout ce qui posera difficulté dans l'interprétation des évangiles sera réputé production de la première communauté chrétienne et non plus témoignage authentique. Donc, la conception moderniste des évangiles est avalisée. Il est ajouté encore d'autres points. Par exemple, cette phrase, « Les chrétiens ne doivent jamais oublier que la foi est un don libre de Dieu, assurément, et qu'on ne juge pas la conscience d'autrui, etc. » Mais dans le contexte, et les commentateurs autorisés ne s'en priveront pas, cela signifie que si les juifs n'ont pas la foi en notre Seigneur, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu le don. Ce n'est pas de leur faute. Dieu donne à qui il veut et il a jugé expédient de ne pas donner la foi aux juifs. Et on ne sait pas encore où cela mène. Je vous lirai tout à l'heure un passage de cardinal Lustiger. On le subodore. En réalité, la doctrine nouvelle qui se met en place, c'est que les juifs n'ont pas besoin de reconnaître le Christ. Ce n'est pas une nécessité pour eux. Etc. Le commentaire qui est extrêmement intéressant dans la plaquette publié en France par l'épiscopat, n'est-ce pas, du père Remaud, insiste sur tous ces points et comporte un certain nombre de phrases extraordinaires par leur caractère, j'allais dire, pratiquement incompréhensible. Je vous lis celle-ci. Faut-il ajouter que le judaïsme se perçoit lui-même non comme une opposition au Christ, mais comme une fidélité à l'Alliance ? Nous devons apprendre à percevoir le « oui » qui s'exprime à travers ce que nous entendons spontanément comme un « non ». En d'autres termes, nous devons être attentifs aux signes qui nous est adressé, à travers une fidélité qui nous paraît s'opposer à notre propre foi. Tant que tout n'est pas dévoilé, le mystère échappe inévitablement à toutes nos tentatives de rationalisation et de mise en système. Voilà ce que dit le père Remaud, spécialiste du judaïsme, pour l'épiscopat français. En bon français, nous ne comprenons rien à ce rapprochement avec les juifs, ça n'a aucune espèce d'importance, attendez la parousie. Le pape Jean-Paul II dira exactement la même chose dans « Entrer dans l'espérance ». Je passe rapidement sur ce... Voilà les trois documents, pour l'instant, il y a la Shoah, j'y reviendrai un peu plus tard. Je continue mon historique en citant quelques éléments, ils ne sont pas très nombreux, des papes, touchant directement de gestes ou de paroles, touchant directement la question juive. Paul VI, vous le savez, a fait un voyage très célèbre en Israël du 4 au 6 janvier 1964. Ce pèlerinage en Israël, finalement, c'est un autre problème, est extrêmement conservateur. Le pape Paul VI, en dernière analyse, s'est refusé à parler d'autre chose que du Christ, de la terre de Jésus, bénie et sacrée pour les chrétiens. Il a parlé de l'action de Pie XII en faveur des juifs. Il a demandé que les droits et les libertés des catholiques soient respectés en Israël, et il a bien insisté que son voyage était purement spirituel et ne comportait aucune dimension politique, c'est-à-dire aucune reconnaissance du retour à la terre d'Israël. Pourquoi ai-je tenu à mentionner cet élément de la politique de Paul VI, en contradiction totale avec ce qu'il sous-tend par ailleurs doctrinalement ? Pour montrer simplement que les hommes sont complexes, et je crois qu'il ne faut jamais perdre ça de vue, et que même chez Wojtyła, même chez Jean-Paul II, on peut rencontrer de temps en temps des éléments éminemment réactionnaires, comme seront, d'une certaine façon, je crois qu'on peut faire cette lecture, la canonisation d'Edith Stein ou du père Kolb. Moi, j'en fais une analyse conservatrice, par réflexe polonais peut-être, bon, à côté d'une doctrine qui laisse tout aller à volo. Paul VI était un pape qui finalement n'a pas donné grand-chose aux juifs, j'allais dire, dans son habitus théologique, dans sa présence médiatique. On ne peut pas en dire autant de Jean-Paul II. Avec Jean-Paul II, et ce ne sont pas des documents, un document officiel en l'occurrence, que je vais citer, c'est vraiment le fond de son âme, de sa psychologie, de ce que l'on peut peut-être appeler une doctrine, si on pouvait lui donner une forme spéculative. Avec Jean-Paul II, j'allais dire, les vannes de l'amour extensif à l'infini pour le peuple juif sont ouvertes. Alors, par exemple, dans « Entrer dans l'espérance », Jean-Paul II revient sur sa visite à la synagogue de Rome. Que dit-il ? « La visite à la synagogue de Rome a été cependant pour moi une expérience tout à fait exceptionnelle. L'histoire des Juifs de Rome constitue à elle seule un chapitre à part dans l'histoire de ce peuple. Et ces pages ont de plus été écrites, tenez-vous bien, dans le prolongement des Actes des Apôtres. » Je n'ai pas compris cette phrase. Je ne sais pas ce que le pape Jean-Paul II a voulu dire quand il dit « L'histoire des Juifs de Rome est dans le prolongement des Actes des Apôtres. » Je suppose que mystiquement, il rattache la présence de la communauté juive dans la Rome païenne et le ferment chrétien, finalement, a une même histoire. Il ajoute qu'à un homme politique israélien, il parlait, n'est-ce pas, de la grande souffrance des juifs et des signes de leur élection divine. Et l'homme politique israélien lui disant si seulement cela pouvait coûter moins cher. Et Jean-Paul II ajoute, en vérité, Israël a payé très cher son élection. Peut-être grâce à ce prix, cette nation est-elle devenue plus semblable au fils de l'homme qui était fils d'Israël selon la chair. J'insiste, le pape ne dit pas peut-être le peuple d'Israël devient enfin semblable au fils de l'homme, se met à comprendre ce que peut être le mystère de la passion et de la crucifixion. Non, plus semblable. Le peuple juif, dans la souffrance que lui cite son interlocuteur israélien, en réalité, sans le savoir, commençait déjà à ressembler au Christ, voire s'identifier au Christ, et le pape donne son aval à cette idée. Autre citation d'Entrée dans l'espérance. Quand le peuple de l'ancienne alliance pourra-t-il se reconnaître dans l'alliance nouvelle ? Chaque mot est à peser. Hein. Non pas quand se reconnaîtra-t-il dans l'alliance nouvelle, mais quand pourra-t-il ? Il y a une impossibilité, pour l'instant il y a un obstacle, mais qui n'est pas en lui. La réponse appartient à l'Esprit Saint. Nous autres hommes devons seulement essayer de ne pas enrayer son cheminement. Un peu plus loin, le pape Jean-Paul II cite le témoignage d'une personne qui, à la suite d'une rencontre avec la communauté juive, lui dit « Je voudrais remercier le pape pour ce que l'Église catholique a fait pendant 2000 ans pour faire connaître le vrai Dieu. » Tiens, idée curieuse de la part d'un juif. Et Jean-Paul II répond par ce paragraphe, abscons et tordu, disons, mais dont la pensée finale, finalement, est bien ce qu'elle veut être. Indirectement, ces paroles permettent de comprendre comment la nouvelle alliance contribue à l'accomplissement de tout ce qui a pris racine dans la vocation d'Abraham, dans l'alliance du Sinaï établie avec Israël. Je m'arrête une seconde. C'est exactement le problème du subsistite, n'est-ce pas ? La nouvelle alliance contribue à l'accomplissement de la promesse à Israël. Elle n'est pas, elle contribue. Nous sommes un élément dans la grande marche de l'accomplissement. Et à partir de là, on peut supposer que Jean-Paul II agrée, il ne le dit jamais nettement, vous comprenez, mais agrée la valeur co-rédemptrice de l'existence d'Israël. Ensuite, je reviens à la synagogue de Rome, mais tout ceci est d'une banalité affligeante, n'est-ce pas ? La religion juive ne nous est pas extrinsèque, mais d'une certaine manière intrinsèque. Tout est dans d'une certaine manière, parce que tout est en tout et réciproquement, bien évidemment, très Saint-Père. Mais que voulez-vous dire d'une certaine manière intrinsèque ? Parlez-vous des pères de notre foi ou parlez-vous du judaïsme actuel ? Vous êtes nos frères préférés et dans un certain sens, on pourrait dire nos frères aînés. Formule qui a un succès fou et à laquelle je réponds toujours quand on m'en parle. J'inverse la proposition, n'est-ce pas ? Mais alors, dans ce cas-là, nous sommes les frères cadets, les juifs. Avez-vous jamais entendu un juif dire « vous autres, nos frères cadets » ? Donc, voyez-vous, cette fraternité à sens unique est une ineptie philosophique. Un point très important à propos de cette christologie du judaïsme, cette persécution christique de la Shoah, cette identification du judaïsme au corps mystique, réside dans le langage, et on a parlé ce matin longuement du logos, et finalement on se rend compte, surtout dans une perspective juive, que la question du mot, du terme, n'est-ce pas, est fondamentale et prend même une dimension mystique. Les juifs globalement récusent ce discours de Jean-Paul II. Les vrais juifs ne veulent pas entendre parler, nous ne sommes pas des chrétiens, ce n'est pas une crucifixion, nous ne sommes pas des victimes expiatoires, ça n'existe pas dans le judaïsme. Mais ils ont récupéré trois notions. À la déréliction de Jésus, Eli Eli lama sabachthani, correspond le « Dieu s'est tu à Auschwitz ». Dans tous les ouvrages que je fréquente, revient comme un leitmotiv le silence de Dieu à Auschwitz. Je suis intimement persuadé, mais je ne peux pas le démontrer, que c'est une parodie du « silence » entre guillemets de Dieu quand le Christ souffre. Deuxième point, au mystère de l'incarnation, mystère authentique, correspond l'idée que Auschwitz, la Shoah, est indicible. Il n'y a pas de terme pour le dire. Et ce qui me paraissait être une idée peut-être un peu incongrue quand j'étudiais les documents avant celui paru tout récemment, au mois de mars, réflexion sur la Shoah, est confirmé. Dans les documents sur la Shoah, je retrouve mentionné plusieurs fois, je lis, le processus de construction d'un avenir dans lequel l'indicible iniquité de la Shoah. Un peu plus loin. Ce siècle a été le témoin d'une tragédie indicible. Un peu plus loin. L'inhumanité avec laquelle les Juifs ont été traités pendant ce siècle ne peut être exprimée par des mots. Je suis intimement convaincu qu'on voit actuellement se mettre en place une stratégie, si vous voulez, de substitution au mystère chrétien. Eh bien, il y a le mystère de la Shoah. Et on ne peut pas en parler. Dernier point, dans de très nombreux ouvrages, il est fait allusion à l'histoire après la Shoah. Peut-on encore parler d'histoire après la Shoah ? L'histoire du monde s'arrête-t-elle, continue-t-elle ? Eh bien, c'est la version blasphématoire, finalement, de l'ère chrétienne. Alors tout ceci n'est pas, si vous voulez, escalité dans la doctrine romaine. Mais la doctrine romaine n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est tout ce qui tourne autour par des commissions, des exégètes ou des conférences épiscopales non désapprouvées qui développent à l'infini ces thèmes, n'est-ce pas, concernant le judaïsme. Citons, pour ce qui concerne la France, un personnage emblématique, le cardinal Lustiger, n'est-ce pas, un moment papabilé, l'est-il encore maintenant, il semblerait qu'il ait fait quelques boulettes, n'est-ce pas, qu'il en ait écarté. Le cardinal Lustiger est un bon exemple de travaux pratiques, n'est-ce pas? Je cite son ouvrage « Le choix de Dieu », qui est une suite d'interviews. « Dans l'unique histoire humaine, dit Lustiger, ceux qui reconnaissent le Christ comme Messie ne sont pas les seuls à travailler avec lui à la rédemption du monde. Le peuple juif a été et il est aujourd'hui héritier et témoin des promesses de Dieu et de la foi d'Abraham. Les promesses sont irrévocables. Croire aux promesses, même si on ne sait pas qui viendra, c'est déjà être associé à l'œuvre du salut. Alors le journaliste interroge et lui dit, mais alors, pourquoi le christianisme serait-il utile aux juifs? Si l'on vous suit, il est seulement nécessaire aux nations. Et Jean-Marie Lustiger ne dit pas non. Il dit simplement, peut-être est-il important pour un juif de savoir qui est le Messie et d'entendre la parole de Dieu. Peut-être. Sous-entendu, je n'y crois guère. Ils ont leur voix particulière. Le regretté cardinal de Courtrai disait exactement la même chose. Dans une note que j'ai mise dans la version écrite, le cardinal de Courtrai disait « Toute mon enfance, on m'a appris qu'il fallait convertir les juifs. J'ai enfin compris que c'était une erreur, qu'il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de mandat de l'Église envers eux parce qu'ils ont une vocation spécifique. » Alors, tout ceci, voyez-vous, s'est opéré d'une manière, les documents que je vous ai cités tiennent en tout et pour tout, les documents officiels, en une trentaine de pages. C'est très peu de choses. C'est la pointe de l'iceberg, n'est-ce pas? Et tout le reste, c'est l'immense documentation qui se répète jusqu'à la nausée. Hein. Vous pouvez acheter 50 ouvrages sur le dialogue judéo-chrétien vu d'un point de vue chrétien. C'est exactement la même chose, dit sous une forme différente, avec une sensibilité différente. Donc je vous en fais grâce. Simplement, les quelques clés vous permettront de voir les choses un peu plus nettement. Côté juif maintenant, quelle est la réponse, n'est-ce pas, à notre main tendue alors qu'ils étaient demandeurs au départ? Elle est pratiquement inexistante. Je veux dire même documentairement. Il n'y a pratiquement aucun ouvrage juif qui élabore une doctrine du judéo-christianisme. C'est nous qui avons fait tout le chemin. Les orthodoxes sont absolument indifférents, les ultra-orthodoxes absolument indifférents au dialogue judéo-chrétien, le méprisent. Il n'y a même pas de point de contact, il n'y a même pas de rencontre. Disons que l'opinion moyenne du judaïsme médiatique tient en trois termes. Satisfaction, surenchère et crainte de la récupération. Voilà les trois termes que je souligne dans mon texte. Tout ce que l'Église peut donner comme reconnaissance est accueilli avec satisfaction. C'est une évidence, on ne peut pas faire les dégoûter. Surenchère, tout ce que l'Église donne n'est qu'une étape. Et je donne un exemple, n'est-ce pas, de termes que j'ai rencontrés, effectivement, dans les documents officiels, dans les médias. L'Église déplorait l'antisémitisme dans le décret Nostra Aetate. Avec le temps, les Juifs ont exigé qu'elle condamne et pas seulement déplore. L'Église a absous les Juifs du crime de déicide. Après, avec le temps, les Juifs ont dit que ce n'était pas les Juifs, c'était le peuple qu'il fallait absoudre. Puis l'Église a parlé du retour à la terre. Les Juifs ont exigé qu'on parle de l'État d'Israël. Maintenant, le Vatican a reconnu, plus ou moins en 93, l'État d'Israël. Les Juifs, toujours après un temps de latence, n'est-ce pas, où ils s'estiment satisfaits, disent « Mais ce n'est pas tant l'État que nous voudrions voir reconnaître par Rome, mais c'est le droit au retour. » Donc, cette stratégie de la surenchère est une stratégie très habilement menée et parfaitement légitime de leur point de vue. Je veux dire, c'est une forme de guérilla. Le dernier point, c'est la crainte de la récupération. Les Juifs ne participent que de très loin à d'authentiques dialogues théologiques. Parce qu'ils n'ont pas de théologie. Parce qu'ils ne se sentent pas armés. Je citerai le rabbin Henri Zygmann, qui a patronné la cinquième rencontre annuelle du Comité international de liaison entre l'Église catholique et le judaïsme à Jérusalem en 1976, et qui dit dans une dizaine de pages remarquables de pertinence et d'acuité,
que l'on peut trouver dans un, en résumé en français dans un livre qui s'appelle « Les églises et le judaïsme », n'est-ce pas ? Le rabbin Zingman dit avec pertinence le point de vue juif et les enjeux. La situation du judaïsme, dit-il, à l'opposé de celle du christianisme, n'est-ce pas, est toute différente de celle du christianisme. Le christianisme a choisi, dit-il, de fonder sa validité historiquement et théologiquement à l'intérieur du judaïsme, en se considérant lui-même comme l'accomplissement logique et nécessaire de la première économie, ce qui est parfaitement orthodoxe. La situation du judaïsme est toute différente. Il n'y a en lui aucun élément constitutif de sa nature ou de sa structure qui exige une confrontation avec le christianisme. D'où un dialogue dissymétrique. Et le terme dialogue dissymétrique revient constamment sous les plumes des acteurs mêmes du dialogue judéo-chrétien. Nous autres chrétiens, nous avons beaucoup à recevoir de vous, à apprendre de vous, nous avons à nous ressourcer auprès de vous. Mais les juifs disent, ah mais nous, nous n'avons rien à attendre de vous. Nous n'avons rien à apprendre de vous. Nous n'avons aucun enrichissement à recevoir de vous. Ce que nous demandons, c'est justice. Donc, un dialogue dans lequel, par définition, le catholicisme sera en position d'infériorité. Deuxième point, le rabbin Zingman précise que les juifs sont en retrait de ce dialogue par une certaine attitude de défense. La vie religieuse juive, dit-il, a toujours été pour des raisons internes marquée d'une certaine modestie théologique, d'une répugnance à concrétiser en formulation théologique la rencontre du juif avec le divin. Le danger serait, en entrant de force dans des moules théologiques qui lui sont peut-être partiellement étrangers, que le judaïsme ne voie se déformer son véritable caractère et sa compréhension de lui-même. Texte un peu complexe, mais très clair, n'est-ce pas ? À trop discuter avec les chrétiens, eh bien, la pensée juive, j'allais dire, va devenir thomiste, c'est un peu loin, mais il y a de cela. Vous êtes trop fort en spéculation, donc nous retirons nos pions lorsque vous êtes vraiment trop spéculatif. Ce qui n'empêche pas de dialoguer, tant qu'il y a des choses à recevoir. Voyez-vous, cette démarche qui boite, qui claudique continuellement, mais au bénéfice des juifs. Un peu plus loin, le rabbin Zingman, toujours très honnêtement, avec une sincérité qui l'honore, dit la chose suivante. Je suppose que la longanimité des chrétiens à l'égard de cette situation asymétrique est faite d'un sens de la culpabilité et de noblesse oblige. N'est-ce pas ? Nous sommes de grands seigneurs, nous autres chrétiens, alors nous reconnaissons nos fautes. Mais c'est une situation, dit-il, qui ne saurait persister longtemps. Et il explique que on crée des rancœurs. Le propre dialogue judéo-chrétien va créer des rancœurs. Et ça va mal se terminer. C'est d'une lucidité, à mon avis, extraordinaire. Il ajoute un peu plus loin, n'est-ce pas, que l'Église va, à un moment ou à un autre, et ça, les exégètes chrétiens ne le disent pas, bien évidemment, être obligés de remettre en cause les évangiles. Il le dit, j'insiste, dans le cas d'une conférence judéo-chrétienne. On a beau tourner, dit-il, et retourner la question, les évangiles demeurent une source importante d'antisémitisme. J'éprouve une admiration et un respect sans limite pour les efforts catholiques, qui sont déjà en cours dans les orientations et ailleurs, pour essayer de trouver une manière religieusement acceptable de traiter ce problème. Et c'est là certainement une démarche positive, de très grande portée pour l'Église, de soumettre sa Sainte Écriture à un examen minutieux. J'éprouve, une sincère compréhension pour la difficulté qu'il y a à toucher à d'anciennes formules, l'Écriture Sainte, et la crainte de ce qui peut être entamé du même coup en le faisant. Donc, le rabbin Zingman dit, non sans ironie, d'une manière ou d'une autre, vous devrez supprimer des passages d'Évangile. Non. Familièrement parlant, il n'y a pas à tortiller. Les 20 ou 30 ans de dialogue judéo-chrétien, c'est une bonne et belle chose, mais de toute façon, vous serez acculé à la censure des évangiles. Je vous admire par avance. Et après tout, cette réponse du berger à la bergère et cette ironie est bien méritée, parce qu'il ne s'agit que de cela. Le père Remaud, que j'ai cité tout à l'heure, passe son temps, et les orientations et suggestions aussi, et les notes aussi, à essayer une lecture des évangiles, je vous ai fait grâce de tout cela, n'est-ce pas, en montrant qu'avec les pharisiens, les sadducéens, avec le temple, avec les notre Seigneur n'est pas aussi sévère qu'il y paraît, mais ils sont embarrassés, comment pourrait-il être autrement, en être autrement. Alors, il n'y a donc pas, mis à part ce cynisme, entre guillemets, du rabbin Zingman, mais qui est une forme de la sincérité, il n'y a donc pas d'authentique judéo-chrétien côté juif. À ma connaissance, non. Ou fort peu. Je m'explique. Je cite dans la version écrite quelques grands noms de la pensée juive contemporaine qui se sont réellement rapprochés, authentiquement rapprochés pendant toute leur vie, du christianisme. Des noms peu connus d'ailleurs dans la pensée chrétienne. Un philosophe allemand qui s'appelle Franz Rosenzweig, qui est mort en 1929, n'est-ce pas, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'étoile de la rédemption », a été très tenté par la conversion au christianisme, et puis finalement s'est arrêté en route en disant « mais non, il ne faut surtout pas que je me convertisse, le judaïsme et le christianisme ont des missions complémentaires ». Donc, voyez-vous, son christianisme n'est pas un christianisme d'agrément, c'est un christianisme de complémentarité très obscur, extrêmement obscur. En deux mots, si vous voulez, le judaïsme serait la source de la vérité révélée au monde et le christianisme, par son expansion missionnaire, en serait le véhicule. Le véhicule qui fausse la réalité du judaïsme, mais peu importe, Dieu qui tient en main l'histoire, à l'arrivée, saura faire que la Torah triomphe grâce à l'Église, comme grâce à l'Islam. Bon, c'est une pensée qui a eu énormément d'influence. La pensée de Rosenzweig a eu une influence sur celle de Martin Buber, sur celle d'Emmanuel Levinas, bon, des penseurs juifs, mais qui sont totalement juifs. On ne les tient pas pour des judéo-chrétiens. De la même manière, vous avez, dans la langue française, des hommes comme André Chouraqui, qui se sont énormément rapprochés du christianisme au point de traduire les évangiles dans une langue extraordinaire et originale. Mais quand on gratte un peu le christianisme de ces judéo-chrétiens juifs, quel est le point commun, l'unique point commun avec nous? Ils reconnaissent l'existence d'un rabbi qui s'appelait Yeshua, qui a vécu en Judée il y a 2000 ans, qui a dit de grandes, belles et saintes choses, point final. Et comme en face d'eux, ils ont un clergé catholique qui dit substantiellement la même chose, ils peuvent se sentir chrétiens à la nouvelle mode. Donc voyez-vous, ça n'engage absolument à rien. Et en vérité, je n'ai pas trouvé grand-chose d'autre à me mettre sous la dent, hormis quelques minuscules sectes, les Juifs pour Jésus, etc., minuscules qui reconnaissent authentiquement le Christ comme le Messie. Faut-il faire quelques observations théologiques concernant ce dialogue judéo-chrétien? Je n'ai pas qualité, n'étant pas théologien ni prêtre, donc je resterai assez extérieur et je proposerai uniquement, sous le regard de vos hautes autorités, un certain nombre de points qui me semblent être devoir mis en exergue. Bon. Le premier point dans le dialogue judéo-chrétien depuis le Concile, Zélisberg et le Concile, c'est d'abord le silence absolu, total, le silence radio, intégral concernant la tradition des pères. Il est paradoxal que les pères de l'Église, qui sont une reconquête, j'allais dire, de l'intelligentsia moderne, n'est-ce pas, les sources chrétiennes par exemple, bon, les pères de l'Église, qui sont l'objet d'études à n'en plus finir de la part de la génération d'un Daniel Lou, et souvent d'études admirables, bien que viciées, il faut les prendre. Bon, les pères de l'Église disparaissent totalement, intégralement, dès qu'il est question de la question juive. Je dis bien intégralement. Je n'ai pas trouvé dans les centaines de pages que j'ai pu lire mention une seule fois, d'une manière autre que méprisante et accessoire, de Saint Jérôme, de Saint Augustin, de Saint Jean Chrysostome. Ça n'existe plus. On fait l'impasse. Alors, vous comprenez l'embarras de discuter la question juive dans la perspective du Concile, il n'y a pas de discussion. Du coup, toutes les questions connexes, le déicide, puis la malédiction, puis la survivance d'Israël comme peuple témoin, qui ont été discutées presque exclusivement par les pères. La théologie scolastique ayant simplement, j'allais dire, avalisé comme une évidence au cours du XIIe, XIIIe siècle, dans la conduite sociale notamment, cette doctrine des pères. Eh bien, ces questions-là ne sont plus posées. Le point 9 de Zélisberg, que je vous ai cité, éviter d'accréditer l'opinion impie que le peuple juif est réprouvé, maudit, réservé pour une destinée de souffrance, Ce point 9 revient d'une manière récurrente dans tous les documents de Rome, dans tous les discours du pape, dans tous les discours des évêques, dans toutes les repentances. Jamais le point n'est ni explicité, ni discuté. Il n'atteint même pas, si vous voulez, le droit de cité spéculatif. Or, les pères ont écrit des centaines de pages sur la question du déicide, de la malédiction, etc. Il n'est pas de ma compétence d'en parler, mais c'est une des caractéristiques de ce dialogue. C'est un dialogue de censure, c'est un dialogue de tabou. La censure, nous la voyons aussi, la paire de ciseaux, n'est-ce pas, régulièrement appliquée par le Saint-Père et par d'autres, lorsque l'on cite Saint-Paul. C'est le deuxième point. Après les pères, c'est Saint-Paul qui est censuré. La seule phrase qui nous reste de Saint-Paul, c'est « les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance ». Point. Mais il y a des dizaines de pages de Saint-Paul sur la loi, sur l'olivier, la greffe, qui d'ailleurs est détournée de son sens, parce que la greffe des gentils est tenue pour une greffe de l'Église, qui est tout à fait différent. Bon, peu importe. Sur la caducité de la loi, jamais cela n'est évoqué. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous proposer l'exégèse conciliaire de ces questions-là. Elle n'existe pas. Saint Paul est réduit à quelques mots. Les dons de Dieu sont sans repentance. Point. Et lorsque le Concile, pour vous donner un dernier exemple, n'est-ce pas, se permet de dire... se permet à l'audace de dire que Jérusalem n'a pas reconnu le temps où elle était visitée, il y avait déjà une censure, puisque dans le contexte, l'évangéliste disait, n'est-ce pas, il ne restera pas pierre sur pierre le toit, parce que, voyez-vous. Donc, il faut constamment restituer ce qui n'est pas présent. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur le fond du problème, mon modeste avis de laïque ? Les racines juives de l'Église sont une évidence. Je dirais que le magistère moderne, me semble-t-il, en favorisant les langues orientales, l'archéologie, en favorisant, quelles que soient ces déviations, nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas, les travaux de l'école biblique de Jérusalem, etc., a insisté sur cet aspect d'une vérité unie, la science, l'archéologie et la doctrine sont tout un, et nous n'avons pas peur de nos racines juives. Mais il ne s'agit pas de ça dans les documents post-conciliaires. Il ne s'agit pas de nos racines seulement, il s'agit d'une identité entre le judaïsme palestinien et le judaïsme moderne. Évidemment, ça n'a absolument rien à voir. D'autre part, la doctrine du peuple témoin, pour douloureuse qu'elle soit pour le peuple juif, me paraît être tout de même... au moins la doctrine commune, l'opinion commune de la théologie. Il ne semble pas que l'Église ait jamais éprouvé le besoin de dogmatiser sur ces points. Mais cela fait partie de la conscience théologique collective comme une évidence. Pourquoi Israël est-il maintenu ? Pour être témoin de ce qu'il n'a pas reçu le Christ. Bon. Est-ce à dire par là, et ça c'est très important, est-ce à dire par là que nous devons persécuter les Juifs, nous devons les faire souffrir, nous devons leur faire sentir leur malédiction, en aucune manière. Je ne pense pas qu'il y ait une adéquation entre les deux termes. Et la grande malhonnêteté des discussions post-conciliaires consiste à équiparer continuellement, n'est-ce pas, anti-judaïsme et donc antisémitisme, à équiparer malédiction, à laquelle je crois, et donc persécution volontaire. Je crois que c'est une confusion des ordres. Si vous voulez, il me semble que d'un point de vue traditionnel, la malédiction est malédiction parce que précisément, il ne peut pas en être autrement, même si nous voulons être bons, charitables, aimants avec eux. Parce que les peuples sont ce qu'ils sont, l'histoire est ce qu'elle est, l'irrationalité des mouvements de type pogrom, etc., est ce qu'elle est, la méchanceté des hommes est ce qu'elle est. Je ne parle absolument pas du statut juridique des Juifs au Moyen-Âge, qui n'est pas une persécution en tant que telle. Si l'on pousse un peu plus loin le statut du judaïsme par rapport au catholicisme, à la société chrétienne, je me relis ici, si vous permettez. La particularité d'Israël est d'être exclu en étant maintenu, d'où son intenable situation. Nous ne sommes pas loin de penser que, C'est dans cette impossible intégration au règne social du Christ roi que réside, consubstantiellement et non en raison de facteurs extrinsèques, persécution et pogrom, l'essence de la malédiction du peuple juif. Je crois que la question théologique, et c'est là peut-être qu'il faudrait creuser davantage, elle vient dans le fait qu'il n'y a pas de place pour le peuple juif escalité dans une société chrétienne escalité. Et ce qui est tout à fait frappant, et de ce point de vue-là, la modernité a quelque chose de bon, c'est que l'État d'Israël, d'invention récente, c'est le 50e anniversaire cette année, le 14 mai, a exactement le même problème qu'il se pose ou va se poser, n'est-ce pas, si Dieu lui prête vie, à savoir quelle serait la place du christianisme escalité dans une terre juive escalité. Et à ce moment-là, on s'apercevrait que finalement, pour revenir aux thématiques de ce matin, aux thématiques écuménistes, c'est le problème du libéralisme qui se pose en soi. Il n'y a pas plus de place pour une société juive dans la société chrétienne, hormis le ghetto, qu'il n'y a de place pour une société chrétienne dans une société juive. Voilà, me semble-t-il, une donnée qui devrait être admise par tous interlocuteurs de bonne foi. Et enfin, le dernier point, bien évidemment, mais j'en ai pas parlé tellement c'est évident, le dernier obstacle entre d'un dialogue judéo-chrétien, c'est la personne du Messie. Et là, je vous avoue, je ne comprends pas. Tout ce que je peux lire à propos de la personne du Messie relève de la schizophrénie. Des prêtres, des évêques, des cardinaux, un pape dont on peut supposer qu'il croit encore quelque peu à la réalité messianique de notre Seigneur, simultanément sont capables d'affirmer que les Juifs aussi attendent le Messie, qui sera autre et le même. Il sera autre puisque ce n'est pas lui qu'ils attendent, celui que nous connaissons, mais il sera le même, puisque comme nous le reconnaissons, il faut bien que nous concédions au moins ça à notre christianisme. Et plusieurs fois, vous ai-je dit, revient l'idée qu'il y a un mystère. Il y a un mystère de la parousie qui ira contre le principe de non-contradiction, qui résoudra cette antinomie apparente. Juifs et chrétiens sont réconciliés, n'est-ce pas, d'une manière qui dépasse les catégories rationnelles. Alors je ne peux pas en dire plus parce que les textes n'en disent pas plus, et pour cause, qu'est-ce qu'il pourrait dire de plus? Le dernier point que j'ai mis dans ma version écrite en conclusion, et qui est trivial mais hélas une réalité quotidienne, c'est que le dialogue judéo-chrétien est un dialogue sous haute surveillance. Vous le savez tous, nous le savons peut-être davantage en France qu'ailleurs, ce débat théologique que j'ai exprimé ici est un débat interdit. On ne peut pas discuter des notions de malédiction, d'élection, d'intégration au règne du Christ roi, de survivance d'Israël, parce que à ce moment-là, on est responsable rétroactivement de tous les crimes commis depuis le commencement des temps contre le peuple juif, et de la Shoah en particulier. Et j'insiste sur ce point, je ne sors pas d'un congrès théologique en disant cela, les tribunaux français commencent maintenant à connaître des positions exégétiques. Il y a eu au moins un cas de procès en France dans lequel la question de la responsabilité juive ou romaine, n'est-ce pas, dans les évangiles, a été jugée par le pouvoir laïque français, qui a donné tort, bien évidemment, au tenant de la responsabilité juive. Donc voyez-vous, le contexte du dialogue judéo-chrétien, j'espère avoir donné un certain désir d'approfondir, bien que l'ensemble de ce que j'ai dit soit peut-être un peu trouble, c'est quelque chose qui est en gestation. Si vous voulez, je considère que les étapes que je vous ai données ne sont qu'une préfiguration de ce que l'on va voir, peut-être au Sinaï, peut-être plus tard, si Dieu le tolère, et qui dépassera vraisemblablement l'entendement. Donc un pessimisme noir, n'est-elle espérance qu'on a évoqué ce matin, n'est-ce pas, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église.